au plaisir d'insolence.
Une émission de la rédaction de Canal Academy.
L'émission qui prend le temps de parler littérature.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Au plaisir d'insolence, je reçois aujourd'hui un grand insolent devant l'Éternel, ou plutôt un grand provocateur devant l'Éternel, Lucien Gerfagnon. Vous acceptez-vous sous ce terme ?
Je me reconnais assez bien, de fait, oui. Je crois que ça n'aurait pas tellement étonné les collègues non plus.
Il y a une correspondance, disons-le tout de suite, qui me fait rêver, qui défrayerait la chronique si elle paraissait, qui est bien plus intéressante à mon sens que celle de Bernard-Henri Lévy et de Houellebecq, qui est à la mode.
C'est autre chose, disons.
C'est la correspondance Gerfagnon-Paul Venn. Alors, vous la menez depuis 20 ans, je crois ?
Oh, plus que ça. Ça fait maintenant 25 ans, oui, 25 ans, on ne compte plus même. Ça fait 25 ans, il y en a un bon paquet, toujours conservé très soigneusement, dans un coin, et je sais la retrouver immédiatement.
J'avais découvert Lucien Gerfagnon dans les petites citations latines qui font mon bonheur et qui ont fait d'ailleurs ma perte parce que je les offre à tout le monde, ce qui fait que ça me coûte énormément.
Voyez-vous, ça doit faire plaisir à l'éditeur qui me les avait en quelque sorte un petit peu arrachés. J'avais pas envie. D'habitude, je ne fais que de gros bouquins et là, il a fallu que j'en fasse coup sur coup deux petits. Alors, ça me changeait de mes 500 pages habituelles.
Par exemple, je voudrais bien que vous me disiez « In vino veritas ». Vous pouvez la...
Ah, mais bien sûr.
Vous pouvez la lire. Vino Veritas.
Mais pour cela, il conviendrait...
Et vous font les basiques.
...que je me munisse de mes oculi des vitraux ad legendum. Oui, alors vous voulez que je lise ce texte, In vino veritas.
Oui, parce qu'il faut expliquer donc que c'est toutes les grandes citations latines, voilà, des pages roses du Larousse, ou à peu près, que vous racontez à la gerfagnonesque manière.
Et savez-vous pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai été frappé du nombre d'âneries qu'on peut dire sur ces phrases latines. On leur fait dire le contraire, ou bien on n'a pas compris le sens, alors on en invente un autre. Et moi, j'ai préféré, vous voyez, très bêtement, restituer ça dans son sens exact.
Alors, in vino veritas, quand même, on devine le sens.
Qui se prononcerait in vino veritas, bien sûr. D'après l'adage grec, etc. Bon, autrement dit, ivre mort, un monsieur vous révélera enfin ce qu'à jeun il vous aurait toujours caché. C'est ce que les psychiatres appellent une levée d'inhibition. Rien de moins sûr quant aux conséquences. Préférez la prestation de cette dame de l'Antiquité que Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, fin sou, venait de condamner injustement. Elle dit au roi « J'en appelle à Philippe, mais à Philippe à jeun ». C'est tiré de Valère Maxime, il faut toujours être précis, actions et paroles mémorables, 6-2.
Alors, si je vous ai fait lire ça, c'est que bien sûr, il y a toujours Fagnon là-dedans, c'est-à-dire qu'à la fois c'est drôle, et à la fois, c'est comme vous le dites, extrêmement précis.
Il faut que ce soit précis, parce qu'on n'a pas le droit de tromper un élève ou un agrégatif ou quelque chose de ce genre. Ou même simplement, un monsieur lambda dans la rue qui veut lire sa leçon, on n'a pas le droit de le tromper en racontant n'importe quoi. Si par exemple, les voix qui crient dans le désert, ça a été très mal compris, parce que les gens voient quelqu'un qui crie, je ne sais pas ce qu'on irait faire à crier dans le désert, puisqu'il n'y a pas un chat. Alors qu'en réalité, c'était une faute de ponctuation, au temps où il n'y en avait pas, c'est le Seigneur qui dit, point, virgule, etc.
C'est-à-dire
je suis la voix de celui qui crie, deux points, ouvrez les guillemets, dans le désert, préparez les voies du Seigneur.
Ah, voilà.
Parce que vous irez tout droit, vous n'aurez pas besoin de faire tout le tour. Et c'était ça dans la Bible que ça voulait dire. Mais maintenant, on a mis n'importe quoi. Alors du coup, c'est devenu les voix qui crient dans le désert, avec toute la littérature qui s'ensuit.
D'abord, vous avez dédié les petites citations latines à Pierre Dac, élève de Mordicus d'Athènes, ce qui n'est évidemment pas un hasard.
Bien sûr.
Tous les
bien
amoureux sûr, de Pierre Dac s'y retrouveront. Oui. Dites un peu qui est Pierre Dac, parce que beaucoup de gens ne le savent pas.
Ah, Pierre Dac, un des premiers, personnellement, je ne me cache pas d'être un archéo-gaulliste. Lui en était un aussi, mais du temps du vrai et de vrai de vrai. Hein. Et c'était un grand résistant. C'était un juif extrêmement drôle qui adorait les histoires juives et qui disait, n'est-ce pas, quand il s'était fait une vraie fausse biographie, disait Pierre Dac, né à Chalon-sur-Marne, rebaptisé depuis Chalon-sur-Marne, etc. Vous voyez, et tout était à l'avenant et il était très drôle. Et
vous j'ai savez lu... qu'il a écrit un Phèdre.
Mais oui, j'ai lu tout Pierre Dac très jeune. Et je lui rends, à titre posthume, un hommage. Je le remercie. J'espère le rencontrer au ciel. Je le remercie. Savez-vous pourquoi ? C'est parce qu'il m'a toujours empêché de me prendre au sérieux. Je prends mon boulot au sérieux, mais pas le bonhomme.
Oui, alors ça, c'est ce que vous partagez avec Venn, on va y venir. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse allusion au dernier bouquin, je crois, de vous qui est paru. Je crois que c'est le dernier, parce que vous en produisez tellement qu'on ne sait plus quel est le dernier.
Là, tous, j'arrête un peu.
Tous plus mirifiques les uns que les autres, qui s'appelle, je crois, C'était mieux avant.
Ah, le... Ah, oui, non,
là
où
d'accord, Temporis Acti.
En gros, c'était le Julien dit l'Aposta. Mais là, l'autre, oui, Laudator Temporis Acti, c'était mieux avant. Eh bien, c'est tout simplement... J'étais frappé du fait que les gens trouvent toujours que ça va pas aujourd'hui, ça allait, c'était beaucoup mieux hier, avant-hier, la semaine dernière, etc. Bon, eh bien, j'ai voulu pondre un petit bouquin simplement fait de citations. Ça va depuis Homère et Hésiode jusqu'à Bernard-Henri Lévy, ou, etc.
Jean d'Ormesson.
Tous disent ha, autrefois et patati atque patata.
Et est-ce que c'est vrai? Et puis vous finissez par Homère d'alors.
Homère, c'était l'Homère d'alors. Oui, ça veut beaucoup plus au directeur, mon cher Henri Beauvais, le directeur de Talendier. Ça lui avait plu. Il me dit, il faut absolument que je le mette sur le quarto de couverture ou quelque chose comme ça. Oui. Et ça m'avait amusé d'écrire.
Alors, est-ce que
bouquin.
C'est vrai? Est-ce que c'est vrai que c'était mieux avant? Parce que...
Les gens le croient.
Et vous?
Ça a toujours été un peu pareil. Et je prouve justement à l'aide de citations pêchées absolument dans tous les siècles, allant dans l'Antiquité grecque, dans l'Antiquité romaine, au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc., tous disent ce que c'était bien autrefois.
Alors ça va aller de pire en pire.
Alors quand on normalement nous pourrions même probablement pas exister maintenant si ça avait été aussi mal que ça. Et puis finalement ça a continué. Et puis dans 200 ans les gens diront etc. Voilà.
Bon, mais alors
j'aime beaucoup secouer la cervelle des gens dans leur tête.
Oui, puisque vous abordez le monde par la philosophie, ce qui est peut-être un peu différent de Venn au départ, parce que Venn après est venu aussi à d'autres choses. Parce qu'il faut dire quand même que vous êtes un homme extrêmement sérieux, puisque vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes membre correspondant de l'école d'Athènes, c'est ça ?
De l'Académie
d'Athènes. Vous avez été couronné par l'Académie française. Vous étiez surtout docteur, donc ès-lettres en philosophie. Et puis l'un de vos grands maîtres a été le merveilleux Yankelevitch, qui était plein d'humour aussi d'ailleurs, qui avait aussi l'humour. Oui. Donc vous êtes un homme extrêmement sérieux, qui est venu par le sérieux aux choses plus drôles, ou par le drôle aux choses plus sérieuses. Et Paul Venn vous fait une introduction, je trouve, pour votre dernier le livre dont vous parliez, qui est Julien l'Aposta.
Ah, il m'a fait une gentille
préface. Que je trouve merveilleuse. Elle est merveilleuse. Je vais en dire un tout petit bout, parce qu'elle est décapante. Hein.
Il l'est d'ailleurs, décapant. Par nature.
Alors, il dit, pour Julien l'Aposta, « On avait exterminé sa famille entière. On l'avait relégué dans un lointain palais truffé de mouchards. On méditait même d'en faire un prêtre. » Et voilà qu'il était devenu empereur de Rome, et qu'entre-temps, il s'était converti en secret au dieu qu'on croyait mort. la noire saga d'une dynastie hantée de monstres froids, de prélats doubles, de barbouzes et de philosophes arrivistes, est racontée ici jour après jour, au plus près des textes. Alors là, c'est un peu la verve d'un précateur, parce qu'il est plus un précateur peut-être que vous, le Paul Venn.
Disons que nous le sommes chacun à notre façon. C'est tout à fait rigolo parce que Paul Venn est un historien qui ne peut pas se passer de philosophie. Et moi, personnellement, je suis entre guillemets un historien de la philosophie, c'est-à-dire un philosophe qui ne peut pas se passer de l'histoire. Car un philosophe qui ne se balade que dans les concepts, ça ne va pas chercher loin. Et un historien qui ne pense pas à autre chose qu'à des dates, qu'à des dates et des textes, eh ben, c'est pas drôle. Alors, il se trouve que, par le plus grand des hasards, ces deux bons hommes se sont aperçus qu'ils regardaient d'une façon différente, si vous voulez, d'un point de vue différent, plus exactement, regardaient les mêmes choses. L'historien regardait l'histoire, mais avec un œil fixé sur la philosophie, il voulait respirer l'air du temps, et dans l'air du temps, il y a de la philosophie. Et puis le philosophe, lui, regardait la philosophie, mais la philosophie, elle est incarnée dans l'histoire, et donc du coup...
Vous avez voilà. Glissé l'un vers l'autre.
Exactement.
Ces glissements insensibles l'un vers l'autre.
Par le fait même qu'un beau jour... En vacances, un bouquin me tombe sous la main, Paul Venn. Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?
Ce qui est déjà une question bien insolente, oui.
Là, c'était le coup de foudre. Je l'ai lu, je me dis, mais bon Dieu, mais c'est bien sûr. Et ce que moi, je n'osais pas penser, parce que je ne me croyais, j'étais pas assez culotté pour dire des choses en tant qu'historien, je voyais qu'un historien disait ce que le philosophe pensait en douce, etc. Du coup, j'étais rassuré. Je pensais juste, puisque un historien qui regarde les choses d'extrêmement près là-dedans, penser la même chose qu'un philosophe qui, lui, regarde les choses d'une autre manière, ce qu'il y a dans les esprits, etc.
D'ailleurs, Venn s'est rapproché des philosophes et d'un poète très philosophique qui est René Char, et puis de Michel Foucault.
Oui,
donc, vous avez chacun glissé l'un vers le monde de l'autre.
Voilà, exactement. Ça a été... Alors, je lui ai écrit une lettre me disant « Oh, il ne répondra pas », comme quelquefois on écrit à quelqu'un comme ça, alors il est grand... Eh bien, pas du tout. Quelques jours après, je recevais une 4 pages, une grande lettre, et là, s'amorçait 23 ans de correspondance sans jamais s'être rencontrés, jusqu'au jour où j'avais été invité à donner une préface à un de ses bouquins, par Talandier.
C'était le monde gréco-romain, non ?
C'était un petit bouquin, Sexe et pouvoir à Rome, etc., un recueil d'articles. Et du coup, là, on a été invité à déjeuner par Henri Beauvais, et là, je lui ai dit... Écoutez, il y a une chose qui me fait grand plaisir, c'est que je vous trouve tel que je vous imaginais. Il m'a dit, je vous rends l'appareil.
Oui.
Et donc, nous avions bien rigolé.
Et alors maintenant, le dernier avatar, si on peut dire, c'est La Voix au chapitre. Alors c'est un livre tout à fait étonnant, un livre sonore, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un CD audio à la fin qui réunit...
La gentille Clémentine de Roudille.
Voilà, qui vous a donc uni... dans Textuel, enfin chez Textuel plus exactement, et vous faites un très long commentaire qui est en fait une introduction ou le cœur du livre sur vos rapports. Et alors, ils sont extraordinaires et on va voir comment Mitterrand a failli se prendre pour la Vierge Marie. C'est Lucien Gerfagnon, nous reprenons dans quelques minutes.
Quand je fais n'importe quoi, je voudrais que tout le monde fasse comme moi, même si c'est pas comme il faut. C'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo. Si je vais chez des amis qui ne sont pas de mon avis, je pleure, j'éclate en sanglots. C'est rigolo. Voyant qu'ils prennent pitié, je casse un cendrier et je grimpe au rideau criant c'est rigolo. Je prends des tartes à la crème que je coiffe en diadème sur la tête du monsieur qui s'écrie « Sauf qui peut !» Pour terminer la soirée, je mets le feu à l'immeuble entier et je me sauve incognito. C'est rigolo.
Nous revoilà au plaisir d'insolence avec Lucien Gerfagnon. Et il y a un passage du merveilleux petit livre qui est publié par Textuel et par cette dame à qui vous avez donné un bavoir d'honneur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
De petite fille honoris causa.
Elle s'appelle, rappelons-le.
Elle s'appelle Clémentine de Roudille.
Voilà.
Une enfant charmante.
Voilà, avec ces deux, c'est Suzanne Aubin que vous me décrivez.
Voilà, mais que nous aimons bien, que nous sommes deux à bien les aimer, y compris avec ma meilleure moitié.
C'est-à-dire Madame Germaine,
voilà.
dont l'aval est précieux. Alors, dans ce livre qui s'appelle, je le rappelle, « La voix au chapitre, Paul Venn sur l'Antiquité, commentaire de Lucien Gerfagnon chez Textuel », vous parlez de vos discussions avec Venn et vous dites « Un jour, je lui ai écrit pour éclaircir une question qui me taraudait. Quand Commode s'habille, Commode évidemment l'empereur, pas le meuble, quand Commode s'habille en Hercule, comme on en voit un exemple au palais des conservateurs à Rome, avec la peau de lion et la massue, les gens le prenaient-ils au sérieux? Imaginez François Mitterrand habillé en Sainte Vierge. Il m'a répondu, vous avez mis le doigt sur un problème majeur, Commode fringué en Héraclès était sûr d'être compris. Mitterrand, comme vous le dites, ne le serait pas. Non, Commode n'était pas fou. Et depuis, Ségolène vous fait mentir. Elle s'est un peu prise pour la Vierge Marie, là. Elle se croit Commode.
Oui, bien sûr. Mais elle est nettement mieux que physiquement que Commode, ce qui vous prouve qu'un gaulliste n'est pas forcément sectaire.
Ou aveugle. Donc, dans ces dialogues avec Venn, quand même, vous parlez... Je me rappelle aussi que vous aviez un portrait, alors vous, d'Elio Gabal, que vous appeliez le dandy... Attendez, c'était un terme... Vous aviez un terme extraordinaire quand vous décrivez, c'est dans les empereurs romains, évidemment, vous décrivez Elio Gabal, dont vous dites que c'est le playboy d'Éphèse.
Oui.
Oui. Alors oui. Ça, c'est des termes... Évidemment, ça, c'est le style à la fois Gerfagnon... Et comme on l'a vu, Venn.
Hein, oui, exactement. Et le tout nous venant à l'esprit comme ça.
Oui.
Alors, d'ailleurs, quelquefois, on se cite. Gerfagnon a l'impression, en citant du Paul Venn, il a la même impression que Paul Venn en citant du Gerfagnon. C'est, si vous voulez, ces deux bons hommes partis de points différents se retrouvent respirant dans les rues de Rome, le même air, éternuant à peu près dans les mêmes moments, attrapant froid au même sous l'arc de Septime Sévère. Enfin, vous voyez quoi.
C'est... Mais alors, quand même, moi, je vois une petite différence à laquelle on va arriver quand même, c'est-à-dire que...
Je comprends qu'il y a des différences.
Oui, il y a des différences, bien
heureusement,
sûr.
Nous serions des clones, ça serait la brebis d'Oli.
Oui, non,
on n'en parle plus de la brebis d'Oli. Elle est morte, oui.
Non,
c'est
mais
vrai.
Il y a bientôt des clones humains.
Oui.
Ça va être nouveau.
Oui.
Ça va être nouveau. Nous atteindrons autre chose. Venn est peut-être parle plus des temps modernes, souvent. En parlant du passé, par exemple, il n'hésite pas à dire que l'Empire romain, sous certains aspects, c'est le communisme.
Il a effectivement l'analogie prompte, si vous voulez, mais elle est toujours pensée. Hein. C'est pas l'analogie qui vient à Monsieur Lambda dans la rue, enfin, qui mélange le romantisme et toutes sortes de choses. Hein.
Est-ce que vous
savez,
êtes d'accord?
Du genre, oui. Autant suspend ton vol, disait Zola. Enfin, vous voyez, aujourd'hui, ça serait un peu ça, la culture générale. Mais lui, c'est un homme, c'est un savantissime seigneur. Il est très savant, mais il sait être savant en restant drôle, en restant marrant même par moments. Et moi, je lis ses bouquins avec... c'est un mot espagnol qui me vient, ça doit être en raison de la présence de ma moitié, con fruición, avec jouissance, si vous voulez. Quand paraît un bouquin, il dit chouette, un Paul Venn, je ne m'embêterai pas.
Alors vous voyez, Lucien Gerfagnon parle aussi de lui, parce que nous ressentons exactement la même chose quand un nouveau bouquin de Gerfagnon paraît, ce qui fait qu'il y a un jeu de miroir assez étonnant.
Et on ne l'a pas fait exprès en plus.
Alors, Venn dit quand même, et ça c'est peut-être moins votre... truc. Il dit que, par exemple, il parle du christianisme. Alors, il parle différemment peut-être de vous du christianisme. Enfin, il y a évidemment des points de vue différents. Car c'est devenu son cheval de bataille ou son cheval de Troie. Le christianisme, pour lui, sa grande question, si j'ai bien compris, c'est pourquoi le christianisme a-t-il triomphé de l'Empire romain ?
Oui, pourquoi le monde, notre monde est devenu chrétien dans ce dernier bouquin, qu'il a eu la gentillesse de me dédier d'ailleurs.
Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur tout ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont suscité des interrogations ?
Tel micro-point, mais dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, oui. Personnellement, si vous voulez, bien que je me dis chrétien, mais un chrétien... Comment pourrait-on traduire ça ? Agnostique, mystique, si vous voulez. Chrétien à la façon des mystiques Maître Eckhart, etc. Des mystiques réno-flamands. Ou, si vous voulez, je recule dans ma chère antiquité, du pseudo-Denis l'Aréopagite. Vous voyez ? C'est-à-dire quelqu'un qui a une telle intuition de l'approche de Dieu qu'il sait très bien que le mieux, c'est encore de la boucler après, parce que Dieu est... Au-delà de tout, Plotin dirait « l'un est epikein ates ousias », au-delà même de la substance, de l'essence, c'est-à-dire au-delà même de l'être. Si bien quand on parle de Dieu en termes d'être, on ne l'arrange pas. Ça ne veut pas dire que je suis athée, ce serait complètement idiot, parce que si j'étais athée, c'est que j'aurais la certitude que Dieu n'existe pas et que je pourrais le prouver par A plus B. Or là, j'en serais bien incapable. De même que je serais incapable de prouver par A plus B l'existence de Dieu. Tout ce que je sais, c'est que j'en ai l'espérance. Je dirais comme un cher vieil ami à moi, le cardinal Poupard.
Oui. Ah bon, je crois que c'est Saint-Augustin. Oui.
C'est la même chose. La foi... C'est l'espérance dans un amour.
Vous êtes aussi celui, si nous parlions de Saint-Augustin, vous êtes aussi celui qui a édité au sens littéralement américain du mot Saint-Augustin.
Ah oui, la direction des trois Pléiades. Oui, je suis monté sur la croix trois fois de suite au Golgotha.
Et vous avez même consacré deux livres à Saint-Augustin.
Oui, un petit Gallimard découverte, de façon à montrer un peu aux gens qui ne connaissent pas Saint-Augustin, sans trop les ennuyer, de voir un peu qui est ce monsieur, en quel temps vivait-il, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, est-ce qu'on en parle encore, etc. Quoi, il y a plusieurs parties, et c'est fort bien illustré par les dames qui s'occupent de ces choses chez Gallimard, et c'est joliment fait. Et puis chez Des Clés de Beauvert, j'avais fait un Augustin et la sagesse, parce que le terme de sagesse est très vague. Aujourd'hui, quand on dit un môme tâche d'être sage, c'est très différent de la Sophia des Grecs. Hein. Ça veut dire tiens-toi tranquille, mais ne te fais quand même pas totalement oublier, parce que si tu es trop sage, on dira il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors qu'est-ce que c'était la Sophia des Grecs et qu'est-ce que Saint-Augustin en a repris ?
Un art au point de départ pour les Grecs, la Sophia, c'était l'art de penser qui vous conduit à un art de vivre. C'est comme ça que je résumerai, si vous voulez. Là, j'improvise comme au piano, là. Et pour Augustin, c'est exactement la même chose, mais lui, il sait cet art de penser, il sait qu'il lui vient de l'intérieur par le maître intérieur qui parle en lui. Si bien que cette inspiration, elle lui vient directement de l'Esprit-Saint et lui, eh bien, il n'a qu'une chose à faire, c'est d'écouter ce que l'Esprit-Saint lui suggère, de n'être pas trop tarte pour au moins comprendre essayer de comprendre ce que l'Esprit-Saint aimerait qu'il fasse, ou qu'il fît, si on veut parler. Ça serait beaucoup plus joli avec un accent circonflexe. Et pour Augustin, la sagesse, c'est au fond l'art. Je cherche là, j'ai l'air de farfouiller dans les mots, mais je cherche la bonne formule, je ne la trouverai pas. D'ailleurs, Augustin le dit, si tu cherches une bonne formule sur Dieu, ben c'est que ce n'est pas ça. Ça me plaît beaucoup, ça.
Joli retournement. On dit aussi que, enfin, en gros, que Saint-Augustin a exploré l'individu. Avec Saint-Augustin naît une certaine vision moderne, entre guillemets, de l'individu.
Éternelle, je vais presque dire.
Oui, alors qu'en dites-vous ? Est-ce que c'est vrai par rapport, comme rupture avec la conception antique ?
C'est-à-dire que voilà, les gens de l'Antiquité n'aimaient pas beaucoup. Ils disaient plutôt que moi, je, ils disaient nous autres. On vivait en communauté, on vivait en cité. Et on vivait en empire, on vivait, etc. C'était donc un nous qui dominait le jeu. Oh, il y en a d'autres qui ont parlé d'eux. Tiens, par exemple, pour rigoler, Elius Aristide, au second, troisième siècle, qui raconte ses aventures, bon, ses longues aventures sanitaires à l'Asclépion de Pergame, à l'hôpital au temple d'Asclépios. Bon, alors il raconte que le dieu lui a inspiré d'aller se faire vomir, d'aller prendre un clistère, etc. Et de temps en temps, avec un éclat pour remercier le dieu, il est tellement content que le dieu s'occupe de lui. Bon, c'est donc, il ne veut pas guérir, hein, parce que s'il guérit, le dieu ne s'occuperait plus de lui, ça manquerait. Et donc, oui, où il raconte... mais d'une manière générale, les antiques ne parlaient pas d'eux. Quand ils en parlaient, c'était à la troisième personne, comme César dans la guerre des Gaules, par exemple.
Oui.
Caesar fait quitte ceci ou cela. Bon. Est-ce que Augustin écrit, au fond, comme je l'ai dit quelque part, ce truc, je me répète, mais au fond, les confessions... c'est une longue lettre ouverte à Dieu. Pour lui dire quoi ? Ben pour lui dire, ô Seigneur, je me demande ce que tu me trouves pour m'avoir tant aimé, alors que je fichais le camp, j'étais au diable, bien loin de toi, et je, même quand j'essayais de te trouver, je ne savais même pas que je te cherchais. Enfin, tard, je t'ai aimé, sero te ama, oui, pulchritulotam novetam antiqua, tard, je t'ai aimé, beauté si ancienne et si nouvelle, etc. Donc, du coup, si vous voulez, il se met à s'occuper d'un certain Aurelius Augustinus qui se trouvait être lui. Et il en parle, non pas pour se montrer, comme fera Rousseau dans ses confessions.
Réfraction.
Oui, je déteste ça. Mmh. J'aime pas trop Rousseau. Bon, mais enfin, ça les regarde pas. vous voyez, lui, c'est pas pour se faire voir. C'est pour faire voir combien Dieu a été sympa, a été extraordinaire au-delà de toute gentillesse. Dieu m'a aimé et je ne le savais pas. C'est ça les confessions. Et non pas regarder comme je suis bien et regarder tous les péchés que j'ai commis. D'ailleurs, il n'y en a pas commis plus que d'autres. Hein. Si son seul vrai péché, ce n'était pas tellement les tourments de la chair, un petit peu, bien sûr, comme tout le monde, mais c'était plutôt les tourments de l'ambition.
Alors nous allons y revenir au tourment de la chair à propos de Paul Venn dans la dernière partie de l'émission, mais nous allons interrompre quelques minutes avec Lucien Gerfagnon.
La police, je me déguise en précipice, tous les agents tombent de haut. Vous devez vous demander ce qui m'a pris de vous chanter un aussi joli morceau, c'est rigolo.
Alors nous reprenons avec Lucien Gerfagnon le plaisir d'insolence, et Dieu sait si c'est un plaisir. Alors nous parlions tout à l'heure de la chrétienté, et Venn dit à un moment que les ingrédients des dieux grecs et des saints sont au fond les mêmes. Il y a trois ingrédients, dit-il. Snobisme, sadisme et sexe. Est-ce que vous iriez jusque-là ? Parce que Venn est assez violent et plus violent que vous dans l'expression, hein, souvent.
Quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que là, il n'y allait pas, comme on disait de mon temps, avec le dos de la cuillère. Il est un peu raide. Qui est de tout dans les dieux antiques ? Il y en a effectivement, il y a pas mal de choses de ce genre. Il y a d'ailleurs des textes, je me rappelle une fois avoir indiqué à Paul Venn qu'il était empressé d'aller le trouver à l'occasion à une bibliothèque au Palais Farnèse, un texte où j'avais trouvé des choses tout à fait, un article bougrement intéressant du père Festugière sur les dieux. Il y avait notamment, et pour montrer qu'il y avait un rapport personnel entre les dieux et telle brave dame, j'avais le père Festugière citait une certaine Aglaé Niké qui
la brillante ça veut
qui
dire.
Avait été disons un soir où elle était bien bourrée, bien saoule, elle avait cédé à un certain Nikagoras et sa nuit avait été tellement extraordinaire que elle avait été déposée en ex voto, c'était sur les ex voto, des pièces de lingerie que je me dispenserai de citer.
Ah bon. Oui, parce que je crois qu'il dit alors une chose extraordinaire, moi que je ne savais pas du tout, c'est que ce qui était choquant pour les Romains, qui étaient très vite choqués, ce que je ne savais pas non plus, il dit c'était deux choses. Dans l'amour, c'était d'une part qu'on fasse ça sur votre respect le jour,
ah oui,
à la
et
lumière,
puis que les dames enlèvent
leur... Et deuxièmement,
leur...
voilà, que les dames enlèvent leur soutien-gorge c'était... et non pas leur culotte, ce qui m'a beaucoup étonné.
Oui, c'était... Oui, d'ailleurs, oui, c'était très mal vu, le soutien-gorge devait, ce qui correspondait à ça, devait, la dame devait rester. Sauf alors, dans notre jeunesse, les gens appelaient le bobinard. Quand vous en voyez quelques-unes comme ça, sur
la maison de tolérance.
Voilà, si vous voulez, oui, de large tolérance. Et vous voyez ça, par exemple, sur telle ou telle fresque de Pompéi. Hein. Alors là où la dame ne nous cache rien.
Donc vous voyez que on va assez loin entre monsieur Venn et Gerfagnon.
Et comme ex-voto, on ne voit pas aujourd'hui quelqu'un allant, une petite dame allant présenter comme ça en ex-voto quelque chose dans une de ce genre dans une église ou bien une autre, une aimable prostituée qui avait gagné un concours de beauté et qui avait offert au dieu Priap, je crois bien, ou je ne sais pas trop qui, je crois que c'était Priap, hein, une peau qu'elle avait achetée très cher, une peau d'animal, je ne sais plus, de faon, voilà. Et ça fait partie des ex-voto, hein, c'est pas dans des textes, ce sont des textes que personne ne lit jamais, sauf des torsions de notre espèce.
Alors, pour revenir quand même à Saint-Augustin et à l'Afrique romaine, parce qu'on parle toujours de Rome, mais on parle de plus en plus maintenant du pourtour de la Méditerranée et de l'Empire, des écrivains d'expression latine dans l'Empire romain. Et Venn dit d'ailleurs que l'un des malheurs de l'Empire et de nous autres, c'est que les frontières de l'Empire romain ont correspondu avec les frontières de la Méditerranée. On n'y pense jamais.
Oui, cet immense empire. Imaginez quelqu'un qui partirait de l'Écosse à peu près, qui descendrait en France, traverserait...
les colonnes d'Hercule.
Voilà, les colonnes d'Hercule, j'y pensais, et puis irait se promener jusqu'aux confins du Sahara. Se baladerait toujours sur son vélo, par exemple, jusqu'en Égypte, puis irait jusqu'en gros en Irak et referait le tour par en haut, etc. Vous voyez, ça fait à peu près ça. C'était immense, absolument colossal, démesuré, à vrai dire. Et il n'y en a qu'un qui a véritablement eu une idée excellente. Ça a été Dioclétien, quand il a eu justement cette bonne idée de diviser ça en quatre obédiences, dont lui restait le seul patron avec un autre sous-patron, et deux Césars, deux Augustes et deux Césars, la tétrarchie. Ouais. Et ça a marché aussi longtemps que Dioclétien, et ensuite ça...
Mais alors ce qui nous sidère tous, c'est que quand même la notion de barbare est très forte dans l'Empire romain. Alors...
Barbaroi, ça voulait dire les bafouilleurs.
Oui, pour les Grecs.
Barbaros. Mais pour les Romains, qui traduisaient barbarie, on est toujours le barbare d'un autre. Hein. C'était les gens qui ne parlaient pas comme nous, donc ils bafouillaient. On ne pouvait pas comprendre ce qu'ils racontaient.
Oui, mais à l'époque de Saint-Augustin, quand même, les Vandales et les autres barbares sont quand même des gens
Visigoths.
Ça a déjà changé.
Ça a changé.
Les Visigoths, d'ailleurs, c'est intéressant, sont des chrétiens.
Oui. Et des
premiers chrétiens.
Mais Rome vous dirait des chrétiens hérétiques, car ils étaient ariens. Et donc, disciples d'Arius d'Alexandrie, qui avait décidé que le Père et le Fils dans la Trinité n'étaient pas égaux. en flanquant le désordre, c'est un autre mot qui me venait à l'esprit, en flanquant le désordre dans toute la chrétienté de l'époque, parce qu'il y a des gens qui étaient pour, il y a des gens qui étaient contre, et l'empereur Constantin a dit pour une fois quelque chose de vraiment profond en convoquant le concile de Nicée. Il a dit qu'il aurait mieux valu commencer par ne pas poser de pareilles questions. Voyez.
Est-ce que c'est à l'origine de notre monde tel que nous le voyons? Il y a beaucoup d'expositions en ce moment qui nous montrent les barbares, dont la fameuse exposition de Venise et puis celle de Bonn, où on nous a montré le monde des barbares. Et alors, il y a une tendance, pendant très longtemps, on a parlé des barbares hirsutes, méchants, violeurs, etc.
Non, ça, oui, ça c'est aujourd'hui, le barbare de bande dessinée.
Voilà, oui, mais enfin, c'est celui-là. De péplum. Et alors, maintenant, on a un peu la tendance inverse en disant que tout égale tout et que nous sommes nés des barbares qui avaient un monde, mon Dieu, bien aussi solide et bien aussi riche que les gréco-romains. Alors, qu'en pensez-vous vous-même?
Disons qu'il faut regarder les choses de près. Chaque cas, on ne peut pas se balader. Et là, je vais reprendre du cité du Veyne. Les idées générales ne sont ni vraies, ni fausses, ni justes, ni injustes.
Elles sont creuses.
Alors, quand on parle des barbares, moi je dis aussitôt, partons, quels barbares ou juste?
Alors, parlons des Vandales.
Voilà. Bah, les Vandales, ça a donné la Vandalousie. Ils sont descendus jusqu'en Espagne.
Donc vous les avez épousés.
Les Vandales, tous ont de bons côtés et des côtés moins bons. Par exemple, il ne fait pas doute que les barbares, les Gaulois, étaient, au point de vue métallurgique, avaient une meilleure connaissance des métaux. Par exemple, ils avaient inventé le savon, des choses comme ça, des choses que les Romains ne connaissaient pas.
C'est les Juifs d'Alep, oui. Paraît-il, qui les ont introduits.
C'est possible, oui, mais c'est pas faux, oui. Mais tout ça, vous voyez, il faut regarder chaque cas en particulier. C'est
non,
pourquoi...
alors je parle plutôt de l'esprit, disons, de l'Europe, des racines de l'Europe. Est-ce que les Visigoths, qui étaient peut-être plus...
Ils se sont très mêlés,
oui,
c'était très mêlé. Et
Romains.
Puis, comme tous les envahisseurs, quand un envahisseur envahit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait quelques gentillesses aux dames. Et de ces gentillesses, à une époque où il n'y avait pas de pilule, mais du lendemain, ça fait des bébés, etc., etc. Si bien que nous sommes tous plus ou moins croisés de... Allez savoir. Remarquez, de toute façon, si vous remontez tout à fait en haut, vous arrivez au singe, etc. Donc, l'arbre généalogique se perd un peu.
Oui, mais est-ce que vous êtes de ceux qui voient une rupture?
Je ne veux pas de rupture.
Voilà. Oui, vous ne voyez pas une rupture entre l'esprit hérité des gréco-romains? Gréco-romain, d'ailleurs, j'insiste, parce que Paul Venn le dit très très bien, à un moment donné, il dit qu'il ne voit pas...
L'Empire gréco-romain.
Voilà, il ne voit pas, il rappelle, comme vous le rappelez aussi, qu'on parlait grec, qu'il n'y a jamais eu de rupture avec les Grecs.
Jamais, ils ont trop bien, les Romains qui étaient intelligents, ont tout de suite compris tout ce qui pouvait tirer des Grecs, et les Grecs personnifiaient la culture, alors qu'eux personnifiaient la conquête, la force, etc. C'est ce que Paul Venn dit dans son énorme bouquin, mais qui est extrêmement agréable à lire, l'Empire gréco-romain, n'est-ce pas ? Il ne faut pas se laisser tomber sur le pied, c'est un gros bouquin, mais on ne regrette pas de l'avoir lu.
Mais est-ce que les barbares ne désignent pas tout ce qui n'est pas les qualités romaines, c'est-à-dire la fidèle? Est-ce que ça n'est pas par démarcation de leur propre...
Les Romains tenaient beaucoup à leurs petites idées, comme nous dirions aujourd'hui, hein. Il n'y avait au fond de vraiment bien que, vous avez entre nous, qu'un Romain pour un Romain. Moi, j'ai connu ça au temps de la guerre. Les Allemands, il n'y avait rien au-dessus d'un Allemand, voyons. Peu avant, les Français disaient, mais enfin, voyons, il n'y a rien au-dessus des Français. La preuve en a été donnée immédiatement.
Donc, pour vous, c'est un esprit qui perdure.
C'est un esprit, alors ça change. Oui. Il y a des moments où... Alors, pour Augustin, par exemple, un barbare, c'est toujours fatalement un fils de Dieu, hein. La preuve, c'est que quand il parle de l'histoire de 410, la fameuse histoire de l'invasion de Rome par les Visigoths conduits par Alaric, eh bien, il dit, évidemment, c'était très moche, etc. Mais remarquez, hein, ils n'ont pas assassiné les gens qui se réfugiaient dans les églises. Hein, c'est que, pourquoi ? Bah, parce qu'ils sont chrétiens. Hein. Alors, vous autres païens, on est priés de la boucler. Hein, même des envahisseurs, s'ils sont chrétiens, ils savent se tenir. En gros, ça, non, il dit ça dans la Cité de Dieu. Vous voyez ? Un bouquin qu'il faut que les gens lisent, la Cité de Dieu. Ils lisent toutes les confessions. C'est Maurice Druon qui, un jour, m'écrivant, disait, en ressort une de mes pléiades, disait, les gens disent toujours les confessions, mais ils ne lisent jamais rien d'autre d'Augustin. Il faut lire la Cité de Dieu.
Vous avez écrit, vous, un roman sur cette période du IIIe siècle.
J'ai effectivement écrit La Louve et l'Agneau. C'est quelque chose qui m'est venu, j'allais dire, du fin fond des entrailles. Savez-vous pourquoi ? C'était le seul moyen pour moi de montrer ce qu'étaient les chrétiens, non pas aux yeux d'autres chrétiens, comme on a toujours fait dans Quo Vadis, dans les derniers jours de Pompéi, etc., mais cette fois avec l'œil d'un haut fonctionnaire chrétien, bien ennuyé, parce que d'abord il a autre chose à faire, et le coin où il est, il aurait mieux aimé être nommé ailleurs, mais enfin le coin où il est, bon, puis maintenant il y a un édit des très saints empereurs Valérien et Galien, flûte, il faut encore s'occuper de ces gens-là, on vient nous en amener, oh, mais j'en ai rien à faire, et peu à peu, rassurez-vous, il ne se convertit pas, hein, ça serait idiot, mais peu à peu, disons que sa vie en est changée intérieurement, il ne sera plus jamais le même qu'avant, car il a rencontré quelque chose d'autre à quoi il n'avait jamais songé. Et j'ai voulu justement montrer tous les aspects de cette découverte pour un païen. Mais enfin, des gens, vous voyez, les païens et les chrétiens ne mettaient pas, n'affectaient pas le terme de Dieu du même coefficient de transcendance, pour dire ça simplement. Autrement dit, les dieux, pour les Romains, les dieux, oh bah c'était, on faisait un sacrifice aux dieux, un petit peu comme on dit bonsoir à son papa et à sa maman le soir avant d'aller se coucher, quoi. C'était de la politesse, on dit bonjour monsieur, enfin on dit. Et puis, c'est un moyen, une persécution, c'est un moyen de punir ceux qui ne veulent pas sacrifier aux dieux, autrement dit, qui se sortent de la romanité. C'est un test de loyalisme. Et alors là, eh bien, mon malheureux haut fonctionnaire est obligé de condamner des innocents alors que ça ne lui plaît pas du tout de condamner des innocents. Alors ça, vous voyez, c'est le drame, quoi.
Est-ce que vous aimeriez écrire un livre à quatre mains avec Paul Venn ?
Bon, c'est-à-dire qu'on l'a pratiquement déjà fait avec notre correspondance.
Quand est-ce qu'elle est publiée ?
Nous, lui n'y tient pas, parce que je crois qu'il dit ça sera après ma mort. Et comme il n'y a rien ne presse, le bon Dieu a l'éternité devant lui, donc rien ne presse. Et puis en plus, je suis encore plus vieux que lui. Alors,
oui, vaut mieux pas. Ouais. Mais alors dites-moi, il dit, et ça sera peut-être le mot de la fin qui sera sérieux, lui dit, parle de l'émerveillement du choc du passé, et il dit que ça ne sert à rien, tout ce que vous faites ne sert à rien, vos recherches finalement ne servent à rien, mais que ça lui permet, enfin c'est lui qui l'estime, et que pour lui, c'est simplement, il s'agit de combattre l'épouvante de la mort.
C'est pas faux, je dirais que ça serait la seconde partie inconsciente de mon propre travail, moi la pensée consciente, ça serait essayer d'éclairer les gens pour l'instant, qui peuvent encore être éclairés là-dessus, qui ont des curiosités et à qui je peux apporter quelque chose sans les ennuyer. Car il y a ma pensée, si j'écrivais mes pensées, il y en aurait une, la pensée 275, on n'a jamais le droit d'ennuyer, disons, un lecteur qui ne vous a rien fait.
Eh bien, je crois que vous avez réussi, Lucien Gerfagnon.
Un auditeur non plus.
Paul Venn aussi, d'ailleurs, a bien réussi.
Exact.
Et nous vous remercions tous les deux d'avoir été insolent, car l'insolence peut être et la provocation peuvent être pédagogiques.
Merci à vous.
Au revoir, Lucien Gerfagnon.
Au revoir, cher ami.